bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le retour du bouche à oreille, 350e émission. Félicitations Hervé.
Félicitations au bouche à oreille et à la radio.
Exactement. Hein. Donc pour fêter ces 350e, nous recevons l'association Picardie Faune Sauvage. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour, on va essayer de les domestiquer.
Oui.
On va voir si on y arrive. Hein. Donc, je vais vous présenter quand même l'équipe qui m'accompagne ce soir. Donc, Luc à la technique, notre marsouin. Voilà, parce que nous, les animaux sauvages, on les adore. Hein, voilà. Et donc, Hervé, notre requin de l'information. Donc, la chronique entre les dents, prêt à dévorer la sauce. Mais non, c'est un gentil requin, Hervé. Voilà.
Ouais, bonsoir à tous.
Voilà. Donc, on va vous présenter Salomé en premier. Bonjour, Salomé.
Bonjour.
Alors, je dis bonjour, bonsoir, hein, c'est pas grave. Hein. Et Christophe. Donc, vous êtes tous les deux à l'origine de cette association Picardie Faune Sauvage.
Alors là, tu en as deux, mais on est déjà beaucoup plus nombreux. En fait, tout est parti d'une équipe un peu plus nombreuse que ça. On doit être une douzaine à peu près. Et le projet, il fallait au moins ça pour pouvoir le lancer.
D'accord. On va faire connaissance avec vous. Hein. Mm-hmm. On va juste préciser une chose, c'est que si les gens veulent réagir à cette émission, il y a le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Voilà, si vous avez des questions à poser à l'association, on transmettra, ou si c'est en direct, ben on interviendra directement à l'antenne. Alors, est-ce qu'on fait déjà connaissance avec vous avant de faire connaissance avec l'association? Salomé, à Allez. Toi l'honneur. On se tutoie, Salomé. Hein.
Ah bah si tu veux, il n'y a pas
Allez,
de souci.
Merci.
Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je suis...
Tout, tout savoir. Mets-toi bien devant le micro, Salomé, s'il te plaît.
D'accord.
Voilà. Allez, vas-y, voilà.
Alors, bon, évidemment, pour être dans une association comme ça, je suis forcément une amoureuse de la nature. J'ai grandi un petit peu dans les herbes folles, on va dire, dans les Pyrénées, beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la nature en partant à 6-7 heures du matin chercher les champignons vers 5-6 ans en bottes et en pyjama.
Donc, ah ouais, donc voilà. C'est ta famille qui t'a inculqué ce plaisir ?
Complètement. Ouais. Enfin, plaisir et liberté, liberté de faire surtout. Donc oui, c'est comme ça que ça a un petit peu commencé. Mon amour de la nature est arrivé très tôt de manière naturelle grâce à des parents très... libertaire, je dirais.
Oui. Donc c'est toi la femme qui a vu l'ours, alors, c'est ça hein?
Voilà, c'est moi. Et j'ai plus peur de rien.
Ok. Mais donc, Salomé, comment on devient... parce que tu as un métier qui est particulier, vous allez en parler. Christophe aussi, c'est ça?
Oui.
Vous faites tous les deux le même métier?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout, d'accord. Alors, donc, je dis des bêtises, alors.
C'est pas grave.
On corrigera. Donc, on va corriger pendant l'émission. De toute façon, c'est en direct. Tant pis, hein, c'est fait. Donc, voilà, Christophe, toi, tu es fauconnier, c'est ça?
Alors, non, fauconnier, c'est ma passion.
Ah ok,
comme Salomé.
D'accord.
Par contre, moi je travaille dans un bureau d'engineering aéronautique, rien à voir.
Oh là là, oui, c'est pas du tout...
Ça vole aussi, mais... voilà.
C'est pas les mêmes rapaces, alors.
Non, pas
voilà.
Trop.
Voilà. Et toi, Salomé, du coup?
Alors oui, moi je suis fauconnier, effectivement, comme Christophe. Et bien, c'est pour moi maintenant devenu un métier. Donc je suis parfois appelée pour effaroucher des pigeons, des étourneaux, pouvoir aider des entrepôts de stockage, des communes, à retrouver un peu leur tranquillité et puis un espace de vie bien plus salubre, puisque les fientes d'oiseaux, on le sait tous, ça crée beaucoup de dégâts. Donc voilà, oui, la fauconnerie, c'est devenu mon métier.
Voilà. Et comment on devient fauconnier alors? C'est quoi le parcours? Comment tu es venu à cette passion? Alors, on a bien compris que tu aimais la nature, mais...
Alors le parcours, il est, ce sont des rencontres avec, avec des gens qui pratiquent déjà la fauconnerie, qui m'ont appris ce que c'est. Et entre autres, Christophe a été une grande aide dans ma formation. C'est, je peux dire, lui qui m'a tout appris.
Bravo Christophe.
Je lui suis énormément reconnaissante de tout ce qu'il a su me transmettre. Et c'est pas un vain mot.
Oui. Donc c'était une rencontre qui était importante. Donc, et puis maintenant vous travaillez ensemble sur cette association. Oui Hervé, tu veux intervenir? Oui.
Non mais je veux savoir, ça prend sur le tas comme ça?
Complètement, il n'y a absolument aucune littérature sur la fauconnerie. Donc c'est une transmission purement orale. Donc il faut vraiment passer beaucoup de temps avec la personne qui est d'accord pour vous former. Donc c'est du temps, c'est des questions, c'est beaucoup d'observation, c'est beaucoup de patience. C'est tout ça qui fait qu'un jour, on peut éventuellement être fauconnier. Mais enfin, ça va au-delà de ça. Hein. Là, je résume. Ouais. Mais en termes de formation, c'est vraiment ça. C'est passer beaucoup de temps, c'est s'investir personnellement de manière très forte pour obtenir toutes ces connaissances et savoir poser les bonnes questions au bon moment, les intégrer. Et puis la pratique aussi, la pratique est très très importante, mais clairement la particularité de la fauconnerie, c'est qu'il n'y a pas de littérature, en tout cas pas de littérature française là-dessus. Il y a très très peu de littérature même étrangère, donc on s'appuie vraiment sur la transmission orale. C'est quelque chose qui là aussi est très traditionnel en termes d'apprentissage.
C'est toujours une tradition française ?
Ah, plus que jamais.
C'est une tradition qu'on a perdue malheureusement à la Révolution, parce que la pratique de la fauconnerie a été considérée comme quelque chose de seigneurial, donc a été interdite. Et en fait, c'est revenu après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu quand même, dans des endroits un petit peu isolés, des gens qui continuaient à la pratiquer discrètement. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était plus facile d'être discret avec un oiseau au poing. Et après la Deuxième Guerre mondiale, enfin déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des usages, par exemple, de pigeons ou de ce genre de choses, et on a revu la fauconnerie pour contrer, par exemple, ces passages de messages par des pigeons, ce genre de choses. Et après-guerre, on a eu enfin un retour de la fauconnerie en France. Donc il y a eu une période d'à peu près un peu moins de 200 ans où la fauconnerie était complètement disparu chez nous.
D'accord. Et comment on récupère un faucon ? Comment ça se passe ? Parce que moi, ça m'intéresse de savoir comment on pouvait avoir des rapaces. Et déjà, combien vous en avez ?
Alors, on en a tous quelques-uns. Salomé en a deux. Moi, j'en ai un petit peu plus. En fauconnerie, on n'utilise que des rapaces maintenant qui vont être nés et élevés en captivité. Donc, il n'y a quasiment plus de prélèvements dans la nature. C'est très, très rare. Il nous faut beaucoup d'autorisations, il faut que les oiseaux soient identifiés, une grosse réglementation. Tous les rapaces en France depuis 50 ans sont des espèces protégées, tous, sans exception. Et donc il y a une réglementation qui est très stricte vis-à-vis de ça, et donc on est tous obligés de s'y plier. Par exemple, pour être fauconnier, on a eu la visite, enfin, on a des autorisations à demander à la DDT, DDPP et à l'OFB. Donc on a trois organismes, rien que pour avoir les autorisations nécessaires.
Tu peux nous traduire, s'il te plaît, parce que là, là on est perdu. Là.
Alors, ce sont les directions départementales du territoire ou les directions départementales de la protection des personnes. Et l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité. En fait, voilà. Ce sont les organismes qui gèrent tout ce qui est environnemental sur la région ou plus. Et donc, pour avoir des rapaces, il faut avoir les autorisations de tous ces organismes. D'accord. Donc, il n'y a rien de simple administrativement parlant. Et comme Salomé t'a expliqué tout à l'heure, il y a toute une phase d'apprentissage avant de pouvoir avoir son propre oiseau. Donc oui, c'est beaucoup de temps et c'est forcément quelque chose de... T'es obligé d'être passionné pour être fauconnier à un moment.
Christophe, alors, comment tu t'es formé, toi ?
Alors moi, j'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai été formé par des amis dont c'était aussi le métier. Et qui... Alors, moi, depuis l'âge de 8 ans, à peu près le même âge que Salomé, j'ai les yeux partout en l'air. Je passais mon temps en forêt, etc. Et puis, j'ai eu un peu de mal à passer ce cap, parce que ça prend beaucoup de temps. Et tu changes carrément de mode de vie, en fait, quand tu deviens fauconnier. Et donc, j'ai des amis qui m'ont formé et qui m'ont un petit peu poussé, mais ils n'ont pas eu à pousser très fort pour passer le cap et devenir fauconnier. Et puis, après voilà. Une fois que c'est fait, ton rythme de vie, ça devient ça.
Donc c'est incroyable, quoi. Depuis tout petit, vous aviez déjà une vocation qui était pratiquement née, quoi. Hein,
Ah, mais je pense que tu le vois sur des enfants, tu le vois très vite, des enfants qui sont tout de suite accrochés à la nature ou aux animaux et tout, qui ont cette espèce d'éveil, c'est juste parfait. Et un de mes grands plaisirs, quand tu vas faire voler un oiseau ou que tu croises des gens, mets l'oiseau, tu prêtes un gant, tu mets l'oiseau sur le gant d'un enfant. J'aimerais que tu vois son visage s'illuminer.
Ah, oui, c'est juste. Même moi, je pense que je serais ouf.
Mais vraiment, sur les enfants, c'est vraiment flagrant. Oui. Et c'est comme ça que tu crées des vocations. Moi, mon premier contact avec des fauconniers, avec des rapaces, c'était ma première année de collège avec un prof de bio qui était juste formidable et qui m'a fait connaître le FIR. Qu'est-ce que le FIR ? Le Fonds d'intervention pour les rapaces. À l'époque, c'était des fauconniers, justement, qui se sont rendus compte que la population de faucons pèlerins commençait à diminuer fortement. Et ils se sont posé la question, et donc ils ont créé ça pour essayer de suivre et de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et ça, ça a été la première fois où j'ai vu déjà une organisation qui faisait quelque chose pour l'environnement et des fauconniers. Et bon, voilà, ça a fait, ça a fait à tilt, quoi.
Ouais. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer en début d'année, là. Vous étiez venu faire une intervention pour l'environnement, enfin, autour du centre d'environnement de Crépy-en-Valois. Et vous aviez ramené une buse, là.
Oui, oui. On avait ramené Twitter.
Magnifique, quoi.
C'était... Tout de suite, ça parle. Ça parle tout de suite quand tu as un animal face à toi, tu peux avoir une espèce de proximité. La chance qu'on ait à être fauconnier, c'est qu'on peut avoir des animaux pour qui cette proximité ne sera pas une crainte. On ne peut pas ramener un animal du centre qui va être sauvage, blessé ou quoi que ce soit. On va le stresser au possible et on risque de le tuer. Non, par contre, avec des oiseaux de fauconnerie, l'avoir au point, commencer à expliquer à des gens, avoir cette proximité avec un rapace qui va ressembler globalement à nos rapaces à nous, même si ce n'est pas tout à fait la même espèce. Mais ça parle tout de suite plus. Et les gens vont beaucoup plus comprendre et seront beaucoup plus motivés pour donner un coup de main.
Voilà, donc c'était une buse qui naît du Canada, je crois, si je me souviens
bien. C'est une buse nord-américaine, oui.
Nord-américaine, voilà. Et donc, elle va être relâchée dans un peu de temps ou
elle restera tout le temps. Pour le coup, c'est mon oiseau. Enfin, je suis sans fauconnier.
Alors, elle était bavarde, mais c'était impressionnant, quoi.
Ah oui, elles font... en plus, c'est... pas de misogynie, c'est une femelle.
Ça te fait trop plaisir de le dire, je le savais.
Donc, oui, elle s'exprime beaucoup plus.
Ah mais, en fait, c'était impressionnant. Elle n'arrêtait pas.
Hein. Ouais, mais dans la nature, ce sont les femelles, donc les formes, comme on parle en fauconnerie, qui vont défendre le territoire. Et donc, c'est elles qui vont, qui vont faire beaucoup plus le cri territorial et tout pour défendre cette partie-là.
D'accord.
Et donc, dès qu'elle arrive quelque part, elle a tendance à faire ce cri territorial pour dire voilà, je suis là et je suis chez moi.
Ah ouais. Et donc, tu as bien précisé une chose, enfin, vous avez bien précisé une chose, c'est qu'on ne les caresse pas, c'est pas des chats, c'est pas des chiens.
On n'y touche pas.
On n'y touche pas.
Non. Les oiseaux n'ont pas de contact déjà entre eux. Donc, nous, n'étant pas de la même espèce, un contact physique, c'est leur imposé. Donc, on a tendance à le faire un petit peu si on a des soins à faire ou ce genre de choses pour pas qu'il y ait complètement d'animosité avec un contact, mais ils y prennent pas de plaisir. Donc il faut juste les habituer suffisamment, les désensibiliser pour pouvoir le faire en cas de soins. Mais par contre, on peut pas câliner un rapace. C'est pas le but, quoi.
Les câlins et bisous, ça n'existe pas.
Non, non.
C'est un rapport de confiance, mais c'est pas un rapport affectif.
Alors, la relation, c'est quoi? Alors, c'est juste une relation de soumission?
Ah, pas du tout. C'est un rapport de confiance.
On est vraiment à l'opposé de la soumission. C'est, il va y avoir un lien qui va être basé sur la confiance et le respect entre le fauconnier et l'oiseau. Et ça, il va falloir du temps justement pour acquérir cette confiance. Et ça va être toute la base du lien qui va être entre le fauconnier et l'oiseau.
Oui, parce que quand vous le lâchez, il pourrait très bien dire « Non, je ne reviens pas ».
Ah oui,
il revient à chaque fois, ouais.
Pour le coup, on fait du vol libre. Ça voilà, porte très bien son nom. C'est lui qui fait son choix. Hein.
Ouais. Donc, ça arrive des fois qu'ils vont un peu se balader un peu plus loin ou qu'ils vous fassent des taquineries. Ouais.
Ça arrive, mais on leur met un émetteur à chaque vol pour être sûr qu'il n'y ait pas de...
Ah oui, pour les retrouver.
Voilà,
ouais.
Pour être sûr. Après, on en a très rarement besoin. Mais il suffit qu'ils soient effrayés par quelque chose ou quoi que ce soit.
Mmh. C'est une sécurité, tout simplement.
Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, c'est très bien. Bah, là, on a fait un petit aparté fauconnerie, hein, Hervé. On va peut-être revenir sur l'association, quand même, maintenant, ouais, Picardie Faune Sauvage. En plus, on a la primeur, aujourd'hui, d'avoir le flyer que vous venez de sortir.
Tout à fait.
Tout chaud, tout prêt. Comme tu dis, Hervé, tu avais encore de l'encre sur les doigts. Hein,
Un dépliant.
Oui, parce que j'ai employé un mot qui ne plaît pas toujours à l'antenne. Donc, on précise bien que c'est un dépliant.
Un triptyque, même, voilà. Pour être précis.
Voilà. Donc, on va faire connaissance maintenant avec l'association. Comment elle est née, cette association? Le pourquoi du comment?
Eh bien, on parlait de fauconnerie tout à l'heure, et en fait, elle est née de ça. C'est-à-dire que, par manque de centres de soins dans la région, on commençait à avoir de plus en plus d'appels de gens qui trouvaient, entre autres, des rapaces blessés ou quoi que ce soit, qui avaient du mal à trouver un endroit ou une association vers qui se tourner pour essayer d'aider ou de sauver cet animal. Et on commençait à avoir de plus en plus d'appels. Bonjour, vous êtes fauconnier, on a trouvé un animal blessé, est-ce que vous pouvez nous aider? D'accord. Alors, dans un premier temps, on s'est appuyé sur le centre de soins de Faune-Alfort, qui travaille avec l'école vétérinaire. Donc, on allait récupérer l'animal et on le transportait chez eux, avec un Ensuite, on a commencé à faire un peu mieux, c'est-à-dire qu'avec les vétérinaires du coin, on arrivait à faire un bilan, un pré-bilan, en fait, des traumas de l'animal avant de le déposer à Maison Alfort. Et puis, à force d'avoir des appels et tout ce genre de choses, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans le secteur. Et ouais. C'est comme ça qu'est né le centre de soins Picardie Faune Sauvage.
Voilà. Et donc, vous êtes à Boissy-Frénon. On précisera bien tout ça, bien sûr. Et donc, ça veut dire que ce manque, les vétérinaires ne pouvaient pas remplacer ce manque. C'était pas possible pour eux. C'était trop compliqué à gérer. Parce que moi, le premier réflexe que j'aurais, c'est d'aller voir un vétérinaire, quoi.
Oui, mais le vétérinaire, sa spécialité, ça va être chien, chat, équidé, bovin.
Plus les animaux domestiques.
Oui, quand tu vas ramener un animal sauvage, c'est tout de suite plus compliqué.
D'accord.
Oui, après, l'animal sauvage, il faut le garder, en plus de ça, un certain temps. Donc, il faut avoir des locaux spécialisés.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Pour un véto, c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses. Il faut vraiment qu'il y ait un centre de soins derrière, même si les vétos... vont pouvoir nous aider sur les premiers soins, sur les radios, sur ce genre de choses, en fonction du cas présent, c'est toujours délicat.
Mais alors, vous avez appelé Picardie Faune Sauvage, ça veut dire que vous êtes Picard maintenant, tous les deux? Parce que si j'ai bien compris, vous n'étiez pas de la région au départ.
Alors, non. Moi non, ça c'est clair. Moi j'étais du sud de la France, je suis arrivée dans la région il y a quelques années, et auparavant j'étais à Cannes, au bord de la Méditerranée.
C'est pour ça le petit canard qui est en logo sur le...
Voilà, c'est un souvenir de la bouée que j'avais quand j'allais à la plage. Non, je plaisante.
Oui. Et donc, et toi, Christophe, tu es de quelle région, là?
Moi, je suis né à Bobigny, donc rien à voir. Mais par contre, j'ai passé quasiment toute mon enfance dans l'Oise. Et donc, voilà.
Donc, tu connais bien le secteur,
ouais,
alors. Voilà.
Très, très bien.
Et voilà, donc on a bien compris que Picardie Faune Sauvage, c'est tout récent. Ça date de septembre 2021.
Oui, on a ouvert il y a très peu de temps.
Oui. Donc, à Boissy-Frénois, un petit village qui est entre Nanteuil-Audouin et Baie, pour situer pour les gens qui ne connaissent peut-être pas bien notre secteur. Et donc, l'objectif pour vous, c'est de développer, quoi, c'est ça, hein, c'est d'ouvrir d'autres centres de soins.
Alors, non, pas forcément.
Pas forcément.
Non.
Déjà, on va faire en sorte que celui-ci fonctionne
d'accord,
bien.
D'accord, on va commencer par ça. Déjà, voilà.
C'est ça. Déjà, si on peut vraiment bien s'organiser sur celui-là, essayer de... d'avoir en fait cette réponse par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure. Quand les gens trouvent un animal sort blessé ou quoi que ce soit, qu'ils aient la facilité de nous trouver et qu'on ait justement une structure qui soit bien organisée, et ça on y travaille tous les jours, pour pouvoir recevoir et sauver le maximum d'animaux sauvages blessés.
Voilà. Alors, on en reviendra tout à l'heure un petit peu à tous les animaux que vous pouvez recevoir, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas la faune sauvage de notre région. Hein. Je vais laisser la parole à Hervé.
Oui.
L'explication d'Hervé ou l'art de décaler les sons.
Alors, comme d'habitude, dans le bouche-oreille, il y a un petit moment à chaque fois où je parle un peu de l'association qui est invitée.
D'accord.
C'est toujours Fred qui m'appelle généralement au début de la semaine. Voilà.
Allô Hervé ?
Ouais, salut Fred. Pourquoi t'appelles ?
Mais écoute, pour le BO de jeudi prochain, on reçoit l'association Picardie Faune Sauvage.
Ah, alors là, c'est chouette, hein.
Ah bah c'est, oui.
Tu peux compter sur moi, je viens.
Oui, alors il faut qu'on...
Mais faut qu'on quoi?
Eh ben, il faut qu'on réfléchisse à la façon de mener l'émission.
Bah ok, à jeudi. Ah, évidemment, c'est toujours le mercredi soir que je me rends compte que j'ai rien préparé pour l'émission, hein. Dans quel guépier je me suis foutu? Là, je suis pas serein, hein. Enfin, je vais trouver. Il faut pas 1000 ans pour écrire une petite chronique sur la protection de la faune sauvage. Et puis, j'ai pas envie de passer pour un blaireau. Hein. Te caille pas le sang, Hervé. Il suffit que je fouine un peu pour trouver des idées. Ça sert à ça, Internet. Allez, il faut que je m'active. Alors, Picardie Faune Sauvage, voilà une nouvelle association sur notre territoire qui se préoccupe du bien-être animal. On ne peut que saluer cette initiative et lui souhaiter longue vie, évidemment. D'après Environnement Nature, il y a 187 espèces sauvages qui ont disparu en France et 20% qui sont menacées, végétales ou animales. Presque 20% des espèces sauvages sont menacées de disparition dans notre pays. Alors, on ne peut que saluer ceux et celles qui viennent au secours des animaux blessés afin de leur donner une nouvelle chance de survivre dans nos campagnes.
Voilà, il faut partager le territoire, c'est un peu ça. Hein,
exactement, ouais. C'est exactement
alors,
ça.
Tu as nommé pas mal d'animaux, là, donc...
c'était le but.
Je pense que le phoque, il ne doit pas y avoir beaucoup dans le coin, là. Hein.
Ben, c'est un animal sauvage, quand même, de Picardie.
Oui, parce que c'est vrai que dans la baie de Somme, on peut trouver des phoques.
Voilà, exactement.
Tout à fait, ouais. Alors justement, est-ce que vous allez récupérer des animaux jusqu'à la baie de Somme?
Alors, un des premiers oiseaux qu'on a récupéré, c'était un balbuzard pêcheur qu'on a été chercher dans la Somme.
Ah ouais, donc ça fait loin. Oui, vous avez de la trotte à faire là.
Ouais. Ouais, ouais.
Oui, il a fait moins. Enfin, nous, on a fait moins de kilomètres que lui. Hein.
Oui,
oui, parce qu'il venait de où ce balbuzard alors?
Il venait d'Helsinki.
D'accord. Donc c'était sa migration, c'est ça?
C'est ça, on devait être sur son couloir migratoire. Il a essayé de capturer un poisson dans le bassin d'un particulier. Il n'a pas vu les grillages autour et il s'est cassé les pattes.
Et donc, ça va? Il va mieux là?
Alors, on l'a récupéré. Par contre, pour le coup, les fractures étaient beaucoup trop importantes pour que nous, on puisse le gérer. Et donc, il a été à Maison Alfort. Okay. À l'école Veto, avec qui on travaille encore très régulièrement pour des cas justement qui sont un petit peu trop sérieux pour nous.
Voilà. Alors on va préciser quand même que vous avez, on peut dire, un partenariat avec une vétérinaire de notre région.
Alors oui, de toute façon, en tant que centre de soins, on a l'obligation d'avoir des vétérinaires référents à proximité. Et donc c'est la clinique vétérinaire d'Assy-en-Mulsien, c'est Jean-Marc et Anne, pour ne pas les citer, qui sont dévoués vraiment à notre cause. Et je ne les remercierai jamais assez parce que je peux venir quasiment n'importe quand. Ils arrivent toujours à me trouver un créneau pour faire une radio, pour nous aider et tout. Ils sont vraiment très impliqués.
Ils se rendent énormément disponibles pour le centre de soins. Et ça, c'est quelque chose qui est rare pour vraiment être salué, parce qu'il est arrivé que le cabinet soit sollicité le week-end, et ils n'ont pas hésité à nous ouvrir leurs portes pour les animaux qui étaient en difficulté, dont on avait besoin d'eux, là, tout de suite. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de les avoir, et puis vraiment à côté, quoi.
Oui, donc c'est un support indispensable, parce que vous n'êtes pas vétérinaire, vous, on le précise bien.
Non, on n'est pas vétérinaire.
Oui,
comment, vous avez atterri à Boissy-Frénois?
Alors, on a eu un petit peu de chance parce que, en fait, l'autorisation d'ouverture, on l'a depuis un moment. On l'a depuis mai. Et ce qu'il nous fallait, c'était vraiment un terrain qui soit pratique par rapport à l'activité qu'on voulait. Et donc, on a réussi à trouver un terrain à Boissy-Frénois qui fait 1 hectare avec déjà des habitations dessus, etc.
Ah ouais, 1 hectare quand même, c'est pas mal.
Ouais. Et l'avantage, c'est qu'il est un petit peu à l'écart de tout. Donc, en plus, on gêne personne, etc. Donc, il est vraiment idéal par rapport à l'activité.
Parce que ça demande des installations particulières quand même.
Alors, au niveau d'installation, on a ça va être des volières, des boxes, ce genre de choses. C'est, on va dire, assez facile à faire, mais il faut un petit peu de place. Ensuite, il faut, par exemple, séparer les carnivores de leur proie potentielle, ne serait-ce que sur le visuel. Il y a plein de choses à penser quand on fait ce genre de choses. Et pour ça, c'est bien d'avoir de la place, quoi.
Alors oui, du coup, Boissy-Frénois, c'est sympa comme tout. Nous, on y va souvent parce qu'il y a le hangar là-bas. Donc, vous connaissez le hangar?
Oui, aussi, ouais, on connaît le hangar.
Voilà, c'est un tiers-lieu où vous pourriez peut-être présenter votre activité. Voilà,
ah, donc, oui.
Alors, on prend la brochure et on explique ce qu'on trouve comme renseignement dessus. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une croix. Donc, en rouge et noir, c'est pas bon signe. Hein. Alors, 1, allez. Salomé, je te laisse bosser un petit peu.
Allez, si tu veux. Donc en fait, c'est une première page où on va vous parler des gestes à faire ou ne pas faire quand vous trouvez un animal sauvage en détresse ou blessé. Donc la première chose à faire, c'est de rester sur vos gardes, parce que ce sont des animaux sauvages. Et de fait, ils peuvent avoir des attitudes de défense, parce que nous, les humains, on n'est pas forcément leurs copains. Hein. Donc il faut être vigilant par rapport à leurs griffes, leurs becs, leur museau, leurs dents. Toutes ces choses-là peuvent être sujets à blessures. Donc il faut faire vraiment attention. Donc le deuxième point, c'est bien de nous appeler et de décrire l'animal et la situation, et éventuellement de prendre des photos que vous allez nous communiquer pour qu'on puisse clairement identifier l'espèce. D'accord. Et en fonction de l'espèce, on vous donnera les conseils adaptés, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et nous aussi, en ayant l'indication de cette espèce, on va pouvoir vraiment organiser son accueil au centre de soins. Donc cet appel, il est vraiment essentiel à plusieurs niveaux. Il est essentiel pour la personne qui découvre, essentiel pour l'accueil de l'animal que l'on va récupérer par la suite. Le troisième point, c'est d'essayer de mettre une couverture ou une veste sur l'animal, justement pour éviter de vous blesser, d'accord, d'être blessé, et puis éviter de blesser l'animal aussi, parce qu'en vous protégeant, en l'emballant entre guillemets dans une couverture ou dans un vêtement, vous allez vous protéger de la même manière que vous allez le protéger. Donc ça, c'est vraiment très très important, et vous attrapez l'animal. Une fois que vous avez attrapé l'animal, alors c'est un animal de petite taille, hein, vous le mettez dans un carton que vous aurez préalablement troué. Alors, le carton, on me pose souvent la question, mais pourquoi un carton ? Alors, pourquoi un carton ? D'abord, parce qu'il n'y aura pas de barreau, donc il ne va pas être susceptible de se créer une surblessure. Il va être dans la pénombre, voire dans l'obscurité complète, ce qui va le rassurer. Ça rassure énormément les animaux d'être dans un milieu obscur. Et puis, un carton, c'est facile, on en a tous. Hein. Alors, si c'est une petite bête, ça peut être un carton à chaussures, ça peut être un carton dans lequel on a mis des anciennes couvertures qu'on garde pour l'hiver ou choses comme ça. On a tous un carton à la maison, ça c'est sûr. Donc, on met l'animal dans ce carton, on a fait des trous, on ferme le carton. Alors, on ferme le carton, toujours pareil, pour se protéger soi pendant le transport et protéger l'animal également pendant le transport. Et donc, à ce moment-là, on va vous demander de conduire l'animal jusqu'au centre de soins. Le fait est, c'est que parfois, il y a des gens qui n'ont pas de véhicule, ne peuvent pas se déplacer, sont parfois très loin du centre de soins. Donc, on est en train de mettre en place une cartographie de bénévoles convoyeurs qui vont pouvoir vous aider à acheminer les animaux jusqu'au centre de soins. Alors attention, pour le moment, on n'en a pas 200 ou 300. Hein. On commence tout juste à faire cette cartographie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais on est potentiellement capable donc, de mener à bien l'acheminement par covoiturage, par l'entraide. Et ça, c'est vraiment essentiel.
Ouais, donc, on peut expliquer, Salomé, je te coupe 30 secondes. Par exemple, le balbuzard que vous avez récupéré dans la Somme, il peut être convoyé par différentes personnes qui seraient plus près de vous.
Tout à fait.
Ça évite de faire trop de kilomètres, c'est ça?
Ça évite de faire trop de kilomètres et effectivement ne pas perdre de temps. Donc,
oui, parce que le temps, c'est important aussi. Oui.
Complètement, complètement. Mais c'est les heures comptent. Les heures comptent pour la prise en charge la plus rapide possible. Donc oui. D'être parfois plusieurs à prendre sa voiture pour l'emmener, ça peut lui sauver la vie. Vraiment. Alors, il y a un point qui est très important aussi. C'est là où on a mis la petite croix rouge dont tu as parlé, enfin, croix noire dans un cercle rouge dont tu as parlé tout à l'heure. On vous demande de ne pas tenter de nourrir ou de caresser l'animal. Alors, vous trouvez ça peut-être un petit peu curieux de ne pas les nourrir ou ne pas leur donner à boire. Selon les chocs, la nourriture ou la boisson peut créer une fausse route. Et là, malheureusement, c'est davantage un problème qu'un secours pour lui. Donc il faut éviter de faire ça. Et nous, on se chargera de le nourrir et de le nourrir en fonction de son état de santé. On pourra adapter en fonction de son état de santé, de son âge et puis de son état général. Donc tout ça, ça va être fait par les soigneurs qu'il y a au centre de soins. Et voilà. Et ne pas caresser l'animal, bien évidemment, parce que ce n'est pas un animal domestique. On ne lui fait pas des câlins, des bisous. On risque de se blesser, de l'affoler et de le tuer, parce que le stress, malheureusement, peut tuer les animaux qu'on trouve dans la nature, et ça, c'est quand même pas le but. Donc, voilà, il faut faire attention. Donc, cette première page de ce triptyque, ce sont des conseils. Ce sont des conseils qui sont alors, d'ordre général, mais qui s'appliquent à la plupart des animaux qu'on peut trouver. Donc, on a trouvé ça intéressant de le mettre sur la première page de manière à ce que ce soit.
C'est très explicite, au moins on comprend tout de suite.
Ça veut dire que le centre, il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ?
Oui, alors accessible. accessible, on n'est pas toujours sur le centre de soins parce qu'on a tous un métier, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Mais effectivement.
Au téléphone ou
oui, qu'on a, on vous répond 7 jours sur 7. Alors, on vous répond 7 jours sur 7, soit par téléphone, soit par le biais de notre page Facebook, où on reçoit quand même pas mal de messages privés pour nous dire « j'ai trouvé tel animal, qu'est-ce que je fais ? L'animal est dans tel état, est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose ?» On répond. On répond du lundi au dimanche, sans souci. Alors, il y a parfois un petit délai, parce qu'on a nos boulots, parce qu'on est aussi en train de soigner les animaux, mais on répond. On ne laisse personne sur le carreau. Il arrive parfois que les gens nous appellent de très très loin. Et là, pour ça, Christophe, il va pouvoir vous en parler. Il y a des gens de l'autre bout de la France qui nous ont déjà appelés le week-end.
Oui.
Parce que les centres de soins sont malheureusement, la plupart du temps, fermés le week-end.
Ah oui.
Donc oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est passionné, mais on est passionné à tous les niveaux. C'est-à-dire que là, on reçoit des appels un peu n'importe quand et potentiellement n'importe où. Je me souviens d'un appel un dimanche matin d'une personne avec un accent plutôt sympa et chantant. Et la personne était dans le Gers. Elle venait de trouver une effraie des clochers, donc les petites chouettes blanches, les dames blanches. Et personne d'autre était joignable, alors il a essayé. Et puis, bon, on a pu s'en sortir comme ça pour que, justement, il puisse avoir les bons gestes et les bons réflexes jusqu'à l'ouverture d'un centre un lundi matin.
Bah, dis donc, ouais. Et ça veut dire qu'il faudrait créer des réseaux entre vous, des liens, peut-être, pour bien orienter les gens, quoi, sur où ils peuvent déposer les animaux.
Alors, j'ai envie de te dire que, de toute façon, il n'y a pas assez de centres.
Oui, déjà.
Donc, en plus, tous les centres, quasiment, fonctionnent sur du bénévolat. Donc il y a un moment, même moi je le dis, je ne peux pas demander plus à mes bénévoles, j'en demande déjà énormément. Ils ont une vie professionnelle, ils ont une vie familiale. Moi je me permets de garder mon téléphone ouvert et puis de répondre un vendredi soir à 22h ou un dimanche matin à 5h ou quoi que ce soit. Je veux bien le faire, je le fais. Et je le fais parce que je veux bien le faire et parce que ça va aider justement. Une fois, il y a une personne qui m'a arrivé, qui m'a appelé, qui m'a dit, vous devez être à peu près la 25e personne que j'appelle. Elle dit, la personne a été honnête et dit, honnêtement, après vous, si j'avais pas de réponse qui correspondait, j'arrêtais. J'ai eu un cas aussi, un veto qui m'appelle, oui, bah, la personne est arrivée, c'était avec un petit rapace, je crois que c'était une effraie aussi. Et elle a posé le carton, elle est partie. En fait, du fait qu'il n'y ait plus de réponse par rapport à cette situation particulière...
On baisse les bras. Quoi,
les gens baissent les bras. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça qu'on essaye de faire de la communication, qu'on soit joignable, qu'on ait les bons conseils au bon moment. C'est pour pas que les gens se retrouvent tout seuls face à un problème. Déjà, ce que je trouve génial, c'est que les gens n'ont pas tourné la tête. Ils ont fait l'effort d'attraper l'animal, de chercher une solution, etc. Et quand tu te retrouves dans cette situation et que tu n'as rien derrière...
C'est une sorte démunie, ça. Bah oui. Déjà, tu fais, t'as l'impression de faire une bonne action qui, malheureusement, n'est pas récompensée. Quoi.
C'est ça.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'écoute de votre choix musical. Et après, encore plein de questions à vous poser, hein, notamment ce que c'est un capacitaire et tout ça. On va rentrer un peu plus dans le détail.
On y répondra.
Voilà, à tout de suite.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Vous êtes bien sur RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui l'association Picardie Faune Sauvage. Des questions à leur poser ? Le Facebook de RVM FM, le téléphone 03 44 59 30 30 et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. Alors pourquoi ce choix musical ? Il y a un message à passer ?
Elle est magnifique cette
chanson. Ah ouais, elle est très belle, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Louis Armstrong.
Hein, voilà, oui. Satchmo.
Voilà, je vais pas dire le nom de la chanson, parce que je parle comme un...
Wonderful World.
Ah, merci Hervé. Oh, oh, quelle maîtrise de l'anglais, c'est beau. Bravo, bravo. Bon, alors, justement, on avait des questions à vous poser. Qu'est-ce qu'un capacitaire, alors ?
Alors, un capacitaire, c'est donc quelqu'un qui a un certificat de capacité, par principe. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est présenté, qui a présenté un dossier pour avoir ce certificat de capacité et qui a présenté son expérience professionnelle et qui l'a défendu devant un jury de spécialistes. C'est l'équivalent, si tu veux, d'un diplôme qui va prouver, entre guillemets, tes capacités à avoir tel ou tel animal.
D'accord. C'est ça que vous recherchez dans votre centre de soins ? C'est des gens qui soient capables d'accompagner...
On est déjà, pour ouvrir un centre de soins, de toute façon, pour accueillir les animaux, tu dois avoir un capacitaire qui correspond à chaque espèce.
À chaque espèce ?
À chaque espèce. Oui. C'est pas juste... On parlait de fauconnerie tout à l'heure. On est capacitaire pour nos oiseaux de fauconnerie.
D'accord. Oui.
Et donc, pour le centre de soins, on doit être aussi capacitaire, ce qui est logique, en fait. Tu reçois des animaux blessés, tu dois être en capacité de les soigner et de les maintenir. Et donc, tu passes devant un jury pour défendre ça et prouver ton expérience. Donc ça, ça a été aussi une des grosses parties pour l'ouverture du centre de soins, parce que forcément, Salomé comme moi, on avait nos capacités, mais pour quelques oiseaux, quelques rapaces. Ouais. Et le besoin, comme je te disais tout à l'heure, est pas simplement sur des oiseaux et sur des rapaces, même si quasiment 80% des animaux qui rentrent au centre sont des oiseaux, et parmi ces 80%, on va dire à peu près 60 ou 70% sont des rapaces, on reçoit aussi des mammifères, etc. Donc il faut être... en capacité de pouvoir...
Justement, sur la brochure, donc page 2 et 3, il est précisé donc, les animaux que vous pouvez soigner. Hein, donc,
oui, enfin, la liste est longue, on a quasiment toute la faune locale.
Voilà, et puis c'est bien précisé que vous ne prenez pas en charge d'animaux domestiques. Pas de chien, pas de chat, pas de poule, pas de mouton, voilà.
C'est ça.
Hein, c'est bien précisé. Donc renard, chevreuil, rapace, bien sûr... Donc, des blaireaux. Malheureusement, les blaireaux, moi, quand je les vois, c'est qu'ils sont morts sur le bord de la route.
Et en ce moment, donc, c'est souvent.
Et j'ai appris aussi qu'on avait maintenant une recrudescence de ratons laveurs. Oui. Qui ne sont pas d'ici.
Non, les ratons laveurs, comme les ragondins, sont des espèces qu'on appelle exogènes envahissantes. C'est-à-dire que les ratons laveurs, pour le coup, sont des cadeaux des Américains, suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui les avaient en animaux de compagnie et qui les ont laissés là en partant. Et les ragondins étaient élevés début du siècle dernier pour la viande et la fourrure. Et pareil, ils ont été lâchés, libérés. Ils sont très bien adaptés dans la mesure où, quasiment dans les deux cas, ils n'ont pas de prédateurs. Mm-hmm. Donc, ils se développent... à volonté.
Le prédateur du ragondin, c'est le puma et le caïman.
Il n'y en a pas beaucoup.
On est un peu court en puma et en caïman.
Il y en a qu'on l'est dans l'ongle, mais peut-être pas pour s'occuper des ragondins. Et le sanglier, alors, est-ce que c'est possible parce que c'est un animal dangereux quand même, le sanglier, je pense.
Oui, le sanglier est aussi un animal dangereux. Après, on est sur des animaux avec des cas de figure qui sont très particuliers et donc ça dépend de la situation.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de sangliers dans le coin.
Aussi. Donc, même par rapport à la législation, tous les animaux qui sont classés ESOD, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ne sont pas légalement relâchables. Et il n'y a pas 36 solutions pour sortir d'un centre de soins. Soit l'animal est relâché, et là on est très content, soit il n'a pas survécu à ses blessures et il est mort. Donc c'est pas un refuge, c'est pas un endroit où on va pouvoir garder pendant des années un animal blessé ou quoi que ce soit. La seule solution pour un centre de soins, sa vocation, c'est de réintroduire l'animal qui a été soigné. Et malheureusement, si on ne peut pas, c'est qu'il est décédé.
Et puis vous précisez quand même que c'est le réintroduire dans ce milieu naturel.
Dans son milieu naturel.
Par exemple, la personne qui l'a trouvé à tel endroit, l'objectif c'est de le remettre au même endroit.
Oui,
pour qu'il se retrouve un peu dans son élément.
La plupart des rapaces sont territoriaux. Donc, en fait, tu vas lui en rajouter des chances de survie en le remettant dans son propre territoire. Parce que, pour le coup, il va peut-être même retrouver sa compagne, il va retrouver un territoire qu'il connaît. C'est-à-dire pour s'y adapter, il n'aura aucune difficulté. Alors que si tu le remets ailleurs, il aura beau être en bonne santé, il va repartir de zéro, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on essaye vraiment de trouver les meilleures solutions à chaque fois.
Et là, le balbuzard, par exemple, balbuzard pêcheur que vous avez récupéré, c'est pas son milieu naturel, la Picardie ?
Ah bah c'est
comment vous allez faire
pour le remettre ?
Alors, celui-là, tuilet, il est parti chez Fenalfort. Donc nous, c'est pas nous qui allons le réintroduire, qui allons le remettre. Mais pour le coup, cet oiseau, il est migrateur. Donc lui, ça ne le gênera pas plus que ça d'être réintroduit sur son couloir de migration.
Ah, oui.
Après, il va s'en débrouiller.
Même si ce n'est pas la période, ça n'a pas d'importance.
Alors, sur les migrateurs, ça dépend lesquels. Mais parfois, on va être obligé d'attendre.
Ah oui, la période de migration.
La période de migration, c'est okay. ça. D'accord. Si la période est passée, on va attendre leur tour. Je pense particulièrement aux martinets, qui sont très sensibles à ça. Donc, si on a dépassé la période de migration, on va le garder jusqu'au retour.
D'accord.
Et là, on le relibérera en même temps que les autres.
Okay. Alors, les animaux qui sont considérés comme nuisibles, si vous en avez, vous les relâchez quand même dans la nature ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de cas de figure sur des ésodes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas forcément ésodes sur tous les départements. Ils peuvent être ésodes à l'échelle nationale, mais pas forcément à l'échelle départementale. Et là, il y a quelque chose qui se passe en ce moment par rapport, entre autres, aux renards.
Ouais, voilà.
Oui,
qui ne l'est pas sur tous les secteurs. Et donc, si, par exemple, il n'est pas relâchable dans un département parce qu'il est encore considéré comme ésode, il peut être relâchable sur un autre département.
D'accord. Voilà. Ouais, tout à l'heure, j'ai cité aussi le blaireau. Le blaireau, c'est un peu compliqué aussi. Hein.
Ouais.
Vous travaillez avec Virginie Boyaval, c'est ça ? Qui est une association Mélès. Hein ?
Globalement, on est trois sur le secteur. Il y a Virginie, qui est du côté de Compiègne, et il y a Eric, avec l'association Envol, qui est un petit peu au-dessus de Beauvais. Alors, pour l'instant, on n'a pas fédéré tous les trois ensemble, parce que bon, nous, on est encore un peu jeunes. Mais l'avantage, c'est que géographiquement, on est plutôt pas mal dispatchés dans l'Oise.
Ça fait un maillage déjà un petit peu du territoire.
C'est déjà ça. Quoi.
Et vous ne travaillez pas avec la LPO ? Pour le moment.
Alors, on a quelques contacts avec la LPO. Ils nous envoient, quand ils ont des appels, ils les renvoient, etc. Après, il faut qu'on arrive à gérer tout ça. C'est encore quelque chose de...
Il y a Picardie Nature aussi. On en a parlé avant l'émission. Voilà. Donc, Picardie Nature qui font aussi...
Il y a le CPIE.
Il y a plein de choses. Il y a quand même pas mal d'associations qui sont un peu dans la même optique que vous.
Il faut arriver, justement, qu'on puisse tous... communiquer de façon fluide pour essayer de gagner le maximum de temps et puis d'être le plus large possible sur en cas de besoin. Quoi.
Oui. Alors, on va venir dans la logistique des besoins que vous avez. Comment vous soutenir ? On peut adhérer, on peut faire des dons. Donc ça, c'est Salomé, si j'ai bien compris l'administratif.
Ah oui, oui. Moi, je vais Salomé, à toi la parole. Salomé, tout ce qui est papier, ça sera beaucoup mieux que moi.
Merci. Alors oui, on peut effectivement nous soutenir par différents moyens. Donc, comme tu viens de le dire, il y a les dons qui sont tout à fait possibles, les adhésions. On a besoin aussi de bénévoles. Alors, les dons et les adhésions, on peut les faire par le biais de la plateforme Eloasso. Eloasso, c'est tout simple. Hein, c'est un site qui répertorie beaucoup d'associations au travers desquelles on peut faire des dons. Des dons... exactement du montant que l'on souhaite. Nous, on a choisi de proposer aux gens de pouvoir faire des dons libres au niveau du choix des montants, de pouvoir même dispatcher leurs dons en termes de dons mensuels, c'est-à-dire au lieu de faire un gros don, pof, d'un coup, ça sort du portefeuille et ça fait mal, ils peuvent tout à fait faire des dons de manière mensuelle, donc ça fait beaucoup moins mal. Et nous, ça nous permet d'avoir une rentrée d'argent peut-être plus petite, mais de manière régulière. Donc ça, c'est quelque chose que l'on apprécie, effectivement. Et par le biais des l'OSO aussi, on parle d'événements. J'allais oublier d'en parler. Là, actuellement, justement, on a un petit événement. Le 25 mars, nous serons sur la commune de Clermont, dans l'Oise, en soirée, à partir de 18h30, pour faire une réunion d'information publique. La commune de Clermont nous prête gentiment une salle et pour pouvoir discuter, rencontrer le public et un petit peu faire ce qu'on a fait aujourd'hui tous ensemble, mais de manière à plus grande échelle, à une échelle différente, puisque les gens vont venir vers nous et on ne rentre pas par la radio. Et on va nous voir en vrai.
Et il y aura la buse qui sera là, alors pareil.
Ah, peut-être, on va voir, si vous êtes sages. Donc aussi, comme je l'expliquais, on a besoin de bénévoles. Alors, la spécificité des bénévoles que l'on recherche, ce sont des bénévoles convoyeurs. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il nous faut absolument des bonnes volontés qui vont bien vouloir faire le taxi ou l'ambulance plutôt pour les petits malades. Parce que clairement, pour travailler au centre de soins, c'est pas possible. Il faut des spécificités, des compétences particulières, comme vous l'a expliqué Christophe. Le fait d'être capacitaire offre des compétences très spécifiques qu'on ne peut pas demander à tous nos bénévoles, parce qu'on ne peut pas demander à tous les bénévoles de passer un certificat de capacité, c'est juste pas possible, c'est un boulot de dingue. Et donc non. Par contre, des gens qui vont acheminer les animaux blessés, oui, ça on en a grandement besoin pour gagner du temps, pour rendre service à des personnes qui ne sont pas véhiculées ou qui ne sont pas en état de conduire. J'ai eu il y a pas longtemps une dame qui sortait de l'hôpital et qui a trouvé dans son jardin un petit oiseau qui était en difficulté, mais clairement, avec sa jambe dans le plâtre, elle ne pouvait pas conduire. Donc voilà, il fallait que quelqu'un se déplace pour aller récupérer ce petit oiseau. Il y a des situations comme ça, et puis parfois, c'est juste la route qui est très longue. Et puis aujourd'hui, bah, on le sait tous, le carburant coûte cher. Donc oui, si oui, on peut partager la note, aussi, c'est quand même pas mal. Ouais. Il faut absolument être solidaires les uns des autres pour aider la faune sauvage. Parce que moi, j'aimerais bien que mes petits-enfants, un jour, aient la joie de continuer à voir ces animaux qui sont fantastiques. Ouais. Donc voilà. Et être bénévole, bah, c'est pas compliqué. Vous pouvez postuler pour être bénévole en nous écrivant à picardie.faunesauvage@gmail.com. ou en nous appelant aussi. Alors vous pouvez, alors pour les bénévoles, il vaut mieux m'appeler moi. Donc mon numéro c'est 06 11 20 zut, j'allais donner le numéro de Christophe. 06 88 pardon 44 97 13. Alors parce que moi je m'occupe plus de la partie administrative.
On le mettra, ça, on rajoutera sur le Facebook de la radio.
Voilà.
Parce que vous avez un beau Facebook aussi qui est très, très
ouais,
bien.
Ouais, vachement sympa. Hein.
Ouais. Ben non, mais en plus on a tous les liens pour. Ne serait-ce que pour l'OASO ou pour être convoyeur.
Tout à fait, il y a tout ce qu'il faut.
Moi, je me suis inscrit comme ça, voilà. Donc,
et tu as eu raison, on est très content de te compter parmi nous. Voilà, on a vraiment besoin de bénévoles convoyeurs. Alors, juste une petite aparté là-dessus, on a besoin encore de gens du côté de Maignelay-Montigny, du côté de Noyon, du côté de Chantilly, par exemple. Là, on a vraiment un gros manque de bénévoles. Chantilly, Méru, Noyon... un petit peu Beauvais, mais ça commence à rentrer, c'est quand même pas mal. Marais-sur-Ourcq, du côté de Villers-Cotterêts aussi, on serait bien content d'en avoir un petit peu.
C'est un maillage entre l'Aisne, entre la Somme, l'Oise. C'est vraiment la Picardie qui est... C'est grand la Picardie. Hein,
ah bah complètement, complètement. Donc plus on sera nombreux, plus on donnera de chance aux animaux d'être pris en charge et d'avoir cette seconde chance qu'on souhaite leur offrir. Et ça, c'est hyper, hyper important.
Oui. Et avec les chasseurs, comment ça se passe ?
Très bien, pourquoi
vous vous avez des bonnes relations ? Ouais.
Ben, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises relations. Ils savent qu'on existe et ça se passe bien. On n'a pas eu de retour négatif.
Parce qu'eux, ils peuvent trouver aussi des animaux blessés qui ne chassent pas. Quoi. Donc,
ça peut
être aussi un support. Voilà.
Alors là, ce qui est drôle aussi, c'est que tu parles des chasseurs. Globalement, Salomé comme moi, nous sommes fauconniers. Donc, nous sommes chasseurs, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, vis-à-vis des autres
par
chasseurs...
Par procuration, voilà.
Ouais, enfin, chasseurs, voilà. Ouais. Mais ça reste un mode de chasse. Tu vois. Et donc, j'ai eu déjà les deux cas de figure. C'est-à-dire que des chasseurs qui nous, entre guillemets, faisaient confiance et nous amenaient des animaux blessés et qu'ils avaient trouvé tout, justement parce qu'on était chasseurs, il y a cette confiance et un peu moins cette crainte du centre de soins anti-chasse.
Oui.
Et ce qui est assez drôle, c'est que généralement, les chasseurs qui trouvent un animal blessé, au niveau de l'implication, c'est souvent énorme. Ils se dépêchent, ils font les choses très très rapidement, ils se déplacent et tu peux être certain que je vais avoir des appels après pour avoir des nouvelles de l'animal blessé.
Donc ils aiment la nature alors.
Ils aiment beaucoup. Après, je ne dis pas que les autres ne le font pas. On a des non-chasseurs qui font la même chose.
Oui.
Mais on a aussi des cas de figure où je vais avoir un appel. Bonjour, j'ai ça dans mon jardin, vous venez le chercher quand ?
D'accord.
Alors là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc oui, avec les chasseurs, ça se passe bien. Et après, ce qui est aussi drôle, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure, Salomé comme moi, nous sommes fauconniers, et d'autres bénévoles du centre sont fauconniers. Et en fait, il y a des gens qui vont avoir un problème avec ça parce qu'on est chasseurs.
D'accord. Ah oui.
Oui, après, tu vois, ça peut aller super loin. Ouais. Mais alors, il y a plein de choses à laquelle on peut répondre à ça. Déjà, nous, en tant que fauconniers, on vit au quotidien avec des animaux sauvages. Donc en fait, c'est juste une logique qu'on puisse gérer des animaux sauvages blessés, même si ce ne sont pas les nôtres. Ensuite, on peut renvoyer sur un autre centre de soins qui s'appelle Alcatorda, qui est dans les Landes, et qui a été créé et qui est entièrement géré par la Fédération de chasse des Landes.
D'accord.
Et c'est un bel exemple, et ça tourne très très bien.
Bon, je n'irai pas tout de suite dans les Landes, ça me fait un peu loin, mais...
On y mange bien, tu
bah, devrais voilà.
y
aller. Non, mais,
en plus, ce centre de soins a été créé quand il y a eu des problèmes avec les marées noires, où ils se sont rendus compte qu'ils ont récupéré les oiseaux, etc., mazoutés, et qu'il n'y avait rien derrière. Ouais. Et on se retrouve dans le cas de figure qu'on t'expliquait tout à l'heure, où tu n'as pas de réponse. Tu as une situation critique au niveau de l'environnement, pas de réponse derrière. Et c'est à partir de là où la Fédération des chasseurs des Landes a créé ce centre de soins, qui est complètement intégré à la Fédération, et qui tourne maintenant encore très très bien.
Ouais, bah donc voilà, donc ça, c'était très important de bien préciser les choses. Je tiens juste à préciser, comme j'ai la brochure devant moi, hein, je l'ai retournée, hein, comme il y a un recto verso, hein, voilà. Qui paye les dépenses, donc on a bien compris que c'était vous qui étiez, voilà.
Alors oui. Hein, notre argent, voilà.
Alors c'est pour ça que les dons...
Vous n'avez aucune subvention.
Les dons sont très importants. Non, pour le moment, on n'a strictement aucune...
C'est pas reconnu encore, c'est ça
Même plus compliqué que ça. C'est plus, ouais. Alors, déjà, on est tout neuf, hein, on est encore un bébé centre de soins, on va dire.
Oui.
Et comme tout bébé centre de soins, bah, on n'a encore pas tous les automatismes. Pour les subventions, c'est parfois un petit peu complexe. Par exemple, trois villes différentes vont proposer des dossiers de subvention, mais avec des dates butoirs différentes. Donc au niveau organisationnel, c'est juste un casse-tête chinois. Voilà. Donc au niveau subvention, aujourd'hui, c'est zéro. Donc aujourd'hui, on est de notre poche à nous. Alors, je ne parle pas que de Christophe et moi, mais je parle de tous les bénévoles qui font partie du centre de soins, qui nous aident. On en est tous de notre poche. Alors, à plus ou moins...
En plus de notre temps, on en est de notre poche.
Oui, non. On est très investis. Ce n'est pas qu'un investissement moral. On est investi aussi financièrement là-dedans. Le centre de soins, ben, il y a le terrain. Il y a le terrain à financer. Il y a les soins.
Il y a la nourriture aussi, vous précisez,
il y a parfois les médicaments, parce que les vétérinaires ne peuvent pas forcément nous offrir les médicaments, parce qu'eux les ont payés, donc les vétérinaires nous font des radios, généralement ils nous en font en cadeau, mais un traitement antibiotique, ça ils ne peuvent pas nous l'offrir, donc on doit payer, c'est normal. On aimerait bien avoir un petit coup de pouce, quoi, ça ferait plaisir. Donc, quelques auditeurs qui veulent nous donner
le message est
un
passé,
petit
voilà,
peu, ça serait cool.
Mais vous n'avez pas d'aide d'État ?
Non.
Par exemple, puisque vous travaillez un peu avec l'école de Maison-Alfort, l'école vétérinaire de Maison-Alfort,
qui est eux sont dans le même
l'école
cas
d'État,
en fait.
Évidemment.
Ils sont dans le même cas de figure que nous, et il n'y a rien d'automatique. L'État ne fait rien automatiquement pour les centres de soins. Il n'y a rien qui tombe tout seul, malheureusement. Ouais, ça nous aurait bien aidé, mais non, ça n'est pas le cas.
Donc, on est en période présidentielle, c'est le moment de passer le même message aux futurs élus, hein. Et puis il y a les législatives qui suivent derrière, donc il faut les taquiner un petit peu. Parce que l'environnement, c'est hyper important.
Il y a le département voisin, le 95, qui sont en train de se poser la question pour faire un centre de soins qui appartient au département.
Voilà. Et comme disait Salomé, c'est bien que nos enfants, nos petits-enfants puissent quand même revoir des animaux sauvages. Il y en a qui ont pas mal disparu. Moi, je vois les hirondelles, j'en vois presque plus. Donc il y a plein d'oiseaux migrateurs qui ont disparu.
De moins en moins.
Donc voilà. Et je tiens aussi à préciser une chose, c'est que le centre de soins ne se visite pas de la même façon qu'on ne visite pas un hôpital. Voilà. Donc c'est bien précisé que c'est vraiment un centre de soins, c'est pas un zoo, c'est pas un truc...
Exactement, il faut vraiment le considérer comme un hôpital pour la faune sauvage. Mmh. C'est vraiment ça, le mercredi on n'emmène pas ses gamins visiter l'hôpital du secteur. Eh ben, on n'emmène pas non plus ses gamins visiter un centre de soins. Les animaux ont besoin de calme, de repos et de ne pas être en contact avec l'humain, parce qu'il ne faut absolument pas qu'ils soient imprégnés et qui ne soit pas soumis au stress. Et l'humain, le stress, clairement. Donc, on doit faire absolument attention à ça. On ne reçoit personne. Voilà, c'est tout simple.
C'est très bien. Alors, je précise aux auditeurs que nous avons des prospectus qui sont ici à la disposition des gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Sinon, après, il y a le Facebook, il y a tout votre mail et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à préciser avant qu'on se quitte ? Hervé, vas-y.
Ben, Salomé parlait tout à l'heure d'un site, non, qui était en construction ?
Alors, le site est en construction, on travaille dessus. Ça avance à petits pas, parce que c'est comme tout, il faut trouver du temps. Mais ça avance, j'ai confiance. Effectivement nous retrouver en attendant sur Facebook, ou nous trouver sous Picardie Faune Sauvage, et on sera très content de vous retrouver aussi sur notre page et de voir que vous nous soutenez au moins par ce biais-là, sans oublier de partager nos publications, parce que c'est ça aussi qui nous fait connaître, on a besoin.
Oui, c'est ça.
Il faut relier, voilà, c'est ça.
Il faut relier. Les gens qui trouvent un animal et perdent pas de temps ou aient pas de soucis pour trouver une solution. Donc plus vite ils auront notre contact et plus vite notre contact ou notre centre de soins, c'est pas trop le problème, mais il faut qu'ils aient cette information rapidement.
Ouais, puis moi je dis aux gens, allez voir sur le Facebook, c'est beau quand vous mettez une vidéo, quand vous relâchez un lapin ou relâchez un rapace, c'est magnifique. Quoi.
Moi je dis plus que toi, Fred, non seulement aller sur le Facebook, mais partager.
Oui, partager. Ouais.
Partager, parce qu'il faut partager si on veut que tout le monde...
Ben, nous, la radio, on partage.
Voilà, voilà. Mais sur le Facebook, à chaque fois, partager.
C'est vrai que c'est important parce que ce partage va faire que les gens auront l'information plus facilement et c'est important qu'ils l'aient.
Oui. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les auditeurs. Hein.
Partager.
Voilà, partager. Merci Salomé, merci Christophe.
Merci
beaucoup.
Donc
on va vous suivre de près, hein. On prendra des infos, hein, comment ça se passe. Hein.
Ah, mais quand
avec
tu
plaisir.
Veux.
Voilà, et puis Hervé, tu as des projets, hein, je crois. Hein.
Oui.
On dévoile.
Oh, bon,
tu veux faire un reportage.
Ben, je vais essayer.
Voilà.
On verra s'il est sage.
Voilà, voilà les auditeurs.
Merci de nous avoir reçus, c'était vraiment sympa.
Je t'en prie, Salomé, c'était un plaisir pour nous. Donc, c'était l'association Picardie Faune Sauvage, le centre de soins qui se trouve à Boissy-Frénois. On va redonner le téléphone de Salomé, parce que Christophe, on ne va pas trop l'embêter. Hein. Donc, c'est le 06 88 44 97 13. Mais on va le mettre sur le site de la radio. Et le Facebook, c'est Picardie Faune Sauvage. Maintenant, on va vous remettre un diplôme d'émancipation radiophonique. C'est dur à dire, ça.
Trop chouette.
Bonne écoute sur nos ondes. Rediffusion de l'émission donc, le dimanche à 16h et le mardi à 10h. Et après, en podcast. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.